Bon, ce soir, on va terminer la leçon sur la dépression et les chrétiens. On avait vu comment la définir, et ça va être la dernière partie ce soir. Comment la définir et ses symptômes. On avait regardé que lorsqu'une personne fait une dépression, ce que les spécialistes conseillent, c'est de regarder notre situation générale et dans la vie et afin d'examiner. La situation générale, là, on ne reprendra pas les points un par un. Le deuxième domaine que les spécialistes conseillent d'examiner, c'est notre vie de pensée. On avait regardé dans les leçons précédentes 10 faux modèles que les anglophones appellent des patterns de pensée qui, à force d'être exercés, finissent par avoir une influence sur l'ensemble de ta vie. On avait regardé ça. Et on les repassera pas non plus ceux-là, mais c'est juste pour qu'on ait une idée générale de ce qu'on a vu. On avait vu aussi que la semaine dernière, que la troisième point qu'on se doit d'examiner, troisième domaine, c'est nos sentiments. Je veux juste reprendre les titres des sentiments qu'on se doit d'examiner pour se rendre jusqu'où on était rendu la semaine dernière. Alors la première chose qu'on se doit d'examiner au point de vue de nos sentiments, c'est vous sentez-vous submergé par la tristesse? La deuxième, êtes-vous en colère contre les autres? La troisième, vous sentez-vous comme si votre vie était sans valeur? Alors, c'est souvent des sentiments qui accompagnent les vies de ceux qui vivent des dépressions. Et la quatrième qu'on avait regardée, c'est sentez-vous de l'extrême anxiété ou de la panique dans vos vies? Alors, on était rendu là la semaine dernière. Là, on termine cette semaine, cette leçon-là. Et la cinquième, c'était sentez-vous que Dieu vous hait et qu'il est loin de vous? Parce que ça peut amener un chrétien à ce point-là, il se sent abandonné de Dieu. Il peut même aller jusqu'à croire que Dieu l'aime pas. Et il se sent extrêmement loin de Dieu. C'est quelque chose de difficile à vivre pour quelqu'un. Alors, même si pour un observateur extérieur, votre passé et votre présent sont remplis d'exemples où Dieu vous a témoigné des grâces et des faveurs, vous vous sentez comme si Dieu était devenu votre ennemi ou qu'il vous a laissé tomber. Alors, des fois, quand la dépression arrive dans la vie d'une personne, disons, moi j'ai connu un pasteur en particulier, il était rendu dans la soixantaine quand ça lui est arrivé, là. Alors, il est arrivé une multitude d'occasions dans sa vie où Dieu lui avait témoigné des grâces et des bénédictions. Mais quand ça l'arrive, tu te sens abandonné par le Seigneur. C'est comme si on dirait que tu ne te souviens pas de ce que Dieu a fait dans ton passé. Alors les gens qui vivent ça, ils se sentent dans des ténèbres spirituelles. Et la Bible, malheureusement, devient pour ces personnes-là comme un livre mort. Ils essayent de le lire, mais on dirait qu'il n'y a plus de goût de lire. C'est comme, on dirait que c'est comme si Dieu ne leur parlait plus à travers du livre. Ils parlent encore, mais c'est comme eux le perçoivent comme s'il ne leur parlait plus. Et donc, la Bible devient comme un livre mort pour eux, et aussi la prière devient pour eux presque impossible. Alors ces personnes-là deviennent tellement centrées sur eux-mêmes que la lecture de la Bible devient extrêmement pénible et la prière ne plus, ils n'ont plus aucun goût pour la prière sous aucune forme. Alors quelque part, c'est pas rien pour aider non plus. On reprend des exemples bibliques de ça. Dans Job, au chapitre 6, verset 4, Job dit: car les flèches du Tout-Puissant sont sur moi, mon âme en boit le venin, les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Alors vraiment, Job, on en parlait justement cet après-midi, on était assis devant le lac, on se disait, tu sais, des fois les personnes, il nous arrive des choses, des épreuves extrêmement difficiles. Et des fois, on peut porter à te rattacher ça à un péché ou à des péchés qu'on a faits dans nos vies ou à toutes sortes d'autres facteurs. Mais ce qu'on discutait cet après-midi, c'est qu'on se disait, Job, Dieu lui-même disait qu'il était intègre et droit. Alors, quand quelqu'un vit une vie chrétienne et qui marche dans les voies du Seigneur, et qu'il t'arrive une affaire de même, mais lui, c'était pas son cas, c'était pas causé par quoi que ce soit autour de lui, sa vie de pensée, ou sa vie de sentiment, ou sa situation générale. Du jour au lendemain, ça change. Les Écritures nous apprennent que le facteur qui a fait le changement, c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que cette chose-là arrive dans la vie de Job pour des raisons précises. Mais quand ça nous arrive, est-ce qu'on pense que Dieu nous envoie ça? Ou si on ne voit pas plutôt ça comme Dieu est rendu qui m'aime plus, comme il dit ici, les flèches du Tout-Puissant sont sur moi, mon âme en boit le venin, les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Il se sent comme si Dieu l'attaquait. À quelque part, Job 13, verset 24, Job dit, « Pourquoi caches-tu ta face et me tiens-tu pour ton ennemi? » Pourtant, ce n'était pas le cas du tout. Mais il le percevait comme ça. Job 16, verset 11. « Dieu m'a livré à l'impie, il m'a jeté aux mains des méchants. » Job 30, verset 19 à 23 et verset 26. « Dieu m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout devant toi, et tu me considères. » Tu es devenu cruel pour moi. Tu t'opposes à moi avec toute la force de ton bras. Tu m'enlèves, tu me fais chevaucher sur le vent. Tu me fais fondre au bruit de la tempête. Oui, je sais bien que tu m'amènes à la mort et dans la demeure, rendez-vous de tous les vivants. J'ai attendu le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Alors imaginons-nous l'état d'esprit d'une personne qui marche dans le Seigneur et qui n'a pas aucun facteur, c'est ni sa vie de pensée, ni sa vie de sentiment, ni sa situation générale, et que Dieu permet que tous ces malheurs-là qu'il a vécu tombent sur lui, ça devait être épouvantablement dur à vivre pour lui. On a dans Lamentation, chapitre 3, les versets 1 à 3, l'exemple de Jérémie. Il dit « Je suis l'homme qui ait vu l'affliction » sous la verge de sa fureur. Il m'a mené, il m'a fait marcher dans les ténèbres et non dans la lumière. Oui, tout le jour, il revient et tourne sa main contre moi. » Et l'autre question, c'est vous sentez-vous suicidaire ou avez-vous envie de mourir? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, à vous, dans la salle. Je ne connais pas assez pour pouvoir le dire. Mais j'ai connu plusieurs personnes qui ont demandé, qui ont pensé au suicide, ou qui ont demandé au Seigneur, « Viens donc chercher, j'en ai assez. » Tout ce que j'avais à apprendre dans cette vie, il y a une femme que je me souviens très bien, je ne mentionnerai pas son nom, qui m'a déjà dit ça. Elle dit, « Marcel, tout ce que j'avais à apprendre dans la vie, là, je l'ai appris. Seigneur, viens me chercher, je suis plus capable. » Elle n'avait, là, tiens, ça dépassait ses capacités de... Alors, vous sentez-vous suicidaire ou avez-vous envie de mourir? Je ne sais pas si vous avez déjà demandé au Seigneur de mourir. Moi, je l'ai déjà demandé. Dans des moments, dans ma vie, là, dans toute ma vie, là, je ne dirais pas où ni quand, là, mais ça m'est arrivé à un moment donné... Tu souffres tellement là, que tu dis au Seigneur, « Seigneur, pourquoi tu ne viens pas me chercher? J'en ai marre. J'en ai assez. C'est comme trop. » Là. Quand tu es rendu là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie, là, quelque part. Et il ne faut pas oublier que c'est le Seigneur qui permet ces événements-là, qui permet ces circonstances-là. Ça, c'est un mystère. Quand on regarde les décrets de Dieu, quand on pense que Dieu a décrété tous les événements de notre vie sans exception, même dans les plus petits, et qu'il nous dit dans le livre de Romains que toute chose, le verbe là, grec, c'est « travail ensemble ». Tous les événements petits, minuscules, qui arrivent dans une journée. Tu sais, comme Jacques Pelletier disait, on est en train de faire une étude, le téléphone sonne, c'est quelqu'un qui est en train de faire une dépression, puis là, il demande à l'aide. Tu sais, tu es en train de faire ton étude, tu aurais le goût de continuer ton étude, toi, là. Tu sais, ça, ça vient te déranger, mais d'un autre côté, Dieu permet que tu aies ce téléphone-là à ce moment-là précis pour des raisons précises. Et c'est le même pour tous les événements qui nous arrivent dans nos vies. À quelque part, ça nous fait réfléchir. Alors, les sentiments de dépression profonde sont ici commentés par le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, concernant l'expérience d'Eman dans le psaume 88, versets 1 à 18. Alors, on va commencer par lire le psaume 88, versets 1 à 18, et on va dire, et on va regarder qu'est-ce que Charles Spurgeon, qui est le prince des prédicateurs, le prédicateur par excellence, a dit sur l'expérience que Eman vivait. Alors, ça commence au verset 1, « Au maître chante, cantique, psaume des enfants de Corée, sur la cithare, masquille, d'Eman l'Ezrakite. Éternel, Dieu de ma délivrance, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Incline ton oreille à mon cri. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie touche aux six jours des morts. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme sans vigueur, gisant parmi les morts, tels que les blessés à mort qui sont couchés dans le tombeau, dont tu ne te souviens plus et qui sont séparés de ta main. Tu m'as mis dans la fosse la plus basse, dans les lieux ténébreux, dans les abîmes. Ta colère pèse sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi ceux que je connais. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis pas sortir. Mon œil se consume par l'affliction. Je t'invoque, ô Éternel, tous les jours. J'étends mes mains vers toi. Feras-tu quelque chose pour les morts? Ou les trespassés se lèveront-ils pour te louer? Annoncera-t-on ta bonté dans le tombeau et ta fidélité dans l'abîme? Connaîtra-t-on tes merveilles dans les ténèbres et ta justice dans une terre d'oubli? Et moi, Éternel, je crie à toi. Ma prière te prévient dès le matin. Éternel, pourquoi rejettes-tu mon âme et me caches-tu ta face? Je suis affligé et comme expirant dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis éperdu. Tes fureurs ont passé sur moi, tes épouvantes me tuent. Elles m'environnent comme des eaux chaque jour. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi mes amis et compagnons. Ceux que je connais, ce sont les ténèbres. Alors, on imagine l'état d'esprit du monsieur qui vit ça. Alors, voici ce que Charles Spurgeon dit concernant l'explication, le commentaire de ce passage-là. Il dit, « Eman se sentait comme s'il devait mourir. » Il se sentait déjà à moitié mort. Toute sa vie se retirait. Sa vie spirituelle déclinait. Sa vie mentale se détériorait. Sa vie physique vacillait. Il se sentait plus près de la mort que de la vie. Plusieurs d'entre nous peuvent vivre cette expérience de traverser la vallée de l'ombre de la mort et de vivre dedans pour un temps. Nous savons que mourir et être avec Christ sera le comble de la joie comparé avec notre misère lorsque nous vivons une expérience pire que lorsque la mort physique jettera son ombre terrifiante sur nous. La mort serait alors perçue comme un soulagement pour ceux dont les esprits déprimés expérimentent une sorte de mort tout en étant vivants. Pourquoi Dieu permet-il que des hommes croyants puissent souffrir de la sorte. Nous savons que plusieurs des hommes justes vivent cette expérience et parfois durant de longues périodes. C'est une grande tristesse lorsque notre seul espoir réside dans le désir de la mort et de la corruption. Eman se sentait comme les carcasses de soldats abandonnés, morts sur le champ de bataille qui vont bientôt pourrir. C'est le même qui se sentait, c'est ce qu'il a dit. C'est aussi un peu comme un soldat mortellement blessé qui saigne abondamment et qui voit l'indifférence et l'absence de secours autour de lui. Il continue de voir le carnage autour de lui. Il se sent comme si Dieu l'avait complètement abandonné. Jusqu'où peuvent aller les esprits de bons et de braves hommes lorsqu'ils se sentent coulés? Sous l'influence de certains désordres mentaux, tout semble se revêtir de noirceur et le cœur plongera dans les plus profonds mystères de sa misère. Alors, on trouve ça dans le livre de Charles Spurgeon, qui s'allie The Treasury of David, qui a pris toutes les 150 psaumes. C'était la seule œuvre écrite de sa vie, Charles Spurgeon. Il a écrit sur les psaumes et uniquement sur les psaumes. Le reste de toutes ces choses qu'on a sur lui, c'est des sermons qui ont été enregistrés en sténographie par des personnes qui étaient présentes quand il a fait ses sermons. Mais le seul livre qu'il a écrit, c'est The Treasury of David. Il aimait les psaumes pour en faire une maladie, Charles Spurgeon. C'est le seul livre qu'il a étudié en profondeur. Et ces commentaires-là sur le psaume 88 dans The Treasury of David. C'est en 6 volumes. C'est excellent. Si quelqu'un veut faire une étude sur les psaumes, c'est le livre à avoir. Il y en a d'autres, là, mais c'est le livre à avoir. Et tu profites de toute sa culture qui était énorme. Il avait lu à peu près tous les puritains. Et il ramassait la crème de tout ça, puis il mettait ça dans ça. C'est du top, comme on dit. Alors, on a encore des exemples bibliques de ça, dans Job, chapitre 3, versets 20 à 22. « Pourquoi donne-t-on la lumière aux malheureux et la vie à ceux dont l'âme est pleine d'amertume, qui attendent la mort et elle ne vient point, qui la recherchent plus qu'un trésor, qui seraient contents jusqu'à l'allégresse et ravis de joie s'ils trouvaient le tombeau? » Quand quelqu'un est rendu là, c'est qu'il accueillerait ça comme de l'allégresse de mourir. Job, chapitre 7, versets 15 et 16. « Ainsi, j'aime mieux étouffer, j'aime mieux mourir que conserver mes os. Je suis ennuyé de la vie. Je ne vivrai pas toujours. Retire-toi de moi, car mes jours sont un souffle. » Moïse, chapitre 11 du livre des Nombres, verset 14. Quand Moïse était vraiment accablé par la douleur de voir son peuple et qu'il n'était plus capable de supporter, de diriger ce peuple, il trouvait ça trop lourd. Il dit, dans Nombre 11, verset 14, « Je ne puis moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Alors, on a l'exemple aussi dans 1 Roi, chapitre 19, Élie, qui n'était pas le plus petit des prophètes, ça dit que Élie, quand il a été couru par la reine qui voulait le tuer, il dit « Et il s'en alla dans le désert une journée de chemin, et il alla s'asseoir sous un genêt, et demanda la mort pour son âme. » Il était tellement découragé que là, il s'assied sous un arbre et il dit « Seigneur, viens me chercher, je ne suis plus capable. » Et il dit « C'en est assez. » Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est des expériences amères, difficiles. Quatrième chose qu'on se doit d'examiner aussi lorsque la dépression arrive, c'est le quatrième domaine, c'est notre corps. On se doit d'examiner comment notre corps peut être un élément ou un facteur qui contribue à continuer dans la dépression. Alors, la Bible nous confirme le lien qui existe entre nos pensées et nos sentiments et nos émotions qui sont déformés ou tordus et plusieurs de nos maux physiques. Autrement dit, tes émotions, tes sentiments, tes pensées peuvent finir par influencer la santé de ton corps. Tu sais, souvent, on parle de psychosomatiques, les maladies psychosomatiques, c'est à la fois de l'esprit et de l'âme, ça communique l'un l'autre, et c'est bien connu depuis longtemps. Proverbe 17, verset 22, ça dit « Le cœur joyeux vaut un remède, mais l'esprit abattu dessèche les eaux. » T'es en train de te dire que quand t'as l'esprit abattu, ça a une influence même jusque sur tes eaux, la Bible dit. C'est pour moi qu'il dit, là, c'est des Écritures, c'est le Seigneur. À tous les jours, les médecins font face à des patients se plaignant de divers symptômes physiques, dont les problèmes prennent racine dans leurs pensées et leurs sentiments et leurs émotions de nature dépressive. Un des éléments, je pense que n'importe qui a déjà fait une dépression ou qui a déjà vécu des périodes dépressives, se rend compte des symptômes corporels suivants. Premier symptôme, un sommeil perturbé. Job 7, versets 13 à 16. « Quand je dis, mon lit me consolera, ma couche me soulagera de ma peine, alors tu me terrifies par des songes et tu m'épouvantes par des visions. Ainsi, j'aime mieux étouffer, j'aime mieux mourir que conserver mes os. Je suis ennuyé de la vie, je ne vivrai pas toujours. Retire-toi de moi, car mes jours sont un souffle. » Donc, un sommeil perturbé, c'est un signe de dépression. Deuxièmement, sur du long terme, un état de fatigue aussi, quelqu'un qui se sent continuellement fatigué. Psaume 6, verset 6. « Je m'épuise en mon gémissement, je baigne chaque nuit ma couche, je trempe mon lit de mes larmes. » Psaume 69, verset 3. « Je suis là de crier, ma gorge est desséchée, mes yeux se consument à attendre mon Dieu. » Donc, un sommeil perturbé, un état de fatigue permanent, des fluctuations de poids. Job 17, verset 7. « Et mon œil s'est consumé de chagrin, et tous mes membres sont comme une ombre. » Job 19, verset 20. « Mes os se sont attachés à ma peau et à ma chair. Je me suis échappé avec la peau de mes dents. » C'est une expression, la peau des dents. Il devait être un homme bien en chair, normal, en bonne santé, mais les problèmes physiques, les problèmes de sa dépression a eu un effet sur son poids, comme on dit. Les problèmes digestifs. Lamentations, chapitre 3, verset 15. « Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. » Psaume 42, verset 3. « Mes larmes sont devenues mon pain, jour et nuit, parce qu'on me dit tout le jour, « Où est ton Dieu? » Psaume 102, verset 4. « Mon cœur a été frappé, et s'est desséché comme l'herbe, tellement que j'ai oublié de manger mon pain. » Quand on souffre au point que tu n'as même plus le goût de manger, ça ne va pas bien dans ta vie dans ce temps-là. Donc, sommeil perturbé, état de fatigue, fluctuation de poids, problèmes digestifs, aussi des douleurs physiques. Psaume 31, verset 10, « Car ma vie se consomme dans la douleur et mes ans dans les soupirs. Ma force est déchue à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » Psaume 32, versets 3 et 4. « Quand je me suis tu, mes os se sont consumés et je gémissais tout le jour, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur se changeait en une sécheresse d'été. » Psaume 38, verset 3. « Il n'y a rien d'entier en ma chair, à cause de ton indication, point de paix en mes os, à cause de mon péché. » Donc, la sixième chose qui arrive dans notre corps, dans les dépressions, des sensations d'étouffement et de manque d'air. Ça, j'ai connu quelqu'un qui a vécu ça, et je trouve ça extrêmement pénible de voir quelqu'un qui manque d'air au point, ils viennent angoisser assez qu'ils ne sont plus capables de respirer. C'est pénible à voir, c'est très, très, très pénible à voir une personne qui traverse des moments comme ça. Psaume 109, versets 1 à 3. Au maître chant, psaume de David, sur Shochamine, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux ont atteint ma vie. Je suis plongé dans un bourbier profond où je ne puis prendre pied. Je suis entré dans l'abîme des eaux et les flots m'ont submergé. Je suis là de crier, ma gorge est desséchée, mes yeux se consument à attendre mon Dieu. » Alors, dans le psaume 32, versets 3 et 4, le psalmiste décrit les conséquences de la vraie culpabilité, mais les mêmes effets peuvent être expérimentés comme résultat de la fausse culpabilité. Le cinquième domaine qu'on se doit d'examiner, c'est celui de notre comportement. Alors, comme nous pouvons nous en attendre, l'impact de la dépression développera inévitablement des effets sur nos pensées, sur nos sentiments, sur notre corps et aussi sur notre comportement et nos activités. Cela est ordinairement observable de deux façons. Premièrement, nous pouvons arrêter de faire les choses auxquelles nous prenions plaisir avant, ou des choses dans lesquelles nous étions habiles et qui avaient de bons effets sur nous. Ceci peut impliquer de cesser d'aller à l'Église ou d'avoir des moments de communion fraternelle avec les autres croyants, de cesser de fréquenter des amis ou la famille, de ne plus s'occuper à des passe-temps ou à d'autres loisirs. C'est souvent ça qui arrive, hein? Ça n'intéresse plus à rien. Deuxièmement, nous pouvons commencer à faire des choses qui contribueront à empirer notre situation, comme ne plus aller dehors. Ça, j'ai connu quelqu'un, que quand il était dépressif, que tu l'appelais pour aller prendre une marche, non, elle restait chez eux, enfermée dans sa maison, elle a pu sortir, fermée étoile même. Prendre l'habitude de prendre de l'alcool, bien sûr, si tu es dépressif, puis tu t'envoies des 40 ans en arrière de la cravate, c'est pas rien pour t'aider. Et tout faire pour éloigner ou se brouiller avec les personnes qui t'entourent. On dirait qu'ils deviennent comme des spécialistes pour chicaner avec tout le monde pour qu'il n'y ait plus de contact avec personne. Comme un isolement volontaire. Alors, bien sûr, il resterait un petit peu là. Je pense qu'on va... Il y aurait un sommaire que j'ai mis sur le... Il y a 10... Non, pas 7. 7 choses que il regarde tout ce qu'on a vu depuis le début de cette leçon-là. Et il fait un sommaire de cela. Alors, si la chose vous intéresse, je vous conseille de parce qu'il est bien fait, le sommaire est court et il résume tout ce qui a été vu dans les 3 ou 4 leçons précédentes. Alors, on va terminer là-dessus. Et j'avais mis comme annexe le livre « Changez vos émotions, changez votre vie ». Il y a quelqu'un de l'Église actuellement qui s'est acheté une copie. Je veux m'en acheter une copie. J'ai feuilleté un petit peu le contenu de ce livre-là. Le livre est construit sous forme de questionnement. Il prend les secteurs de vie qu'on a parlé, vie générale, émotions, sentiments, notre corps, et il te pose une série de questions pour voir où tu es rendu par rapport à ça. Et je pense que ça a l'air d'un outil très bien fait, qui peut, c'est sûr, ça n'a pas été fait dans une perspective biblique, mais je pense que ça peut quand même aider des gens qui traversent des choses, au moins pour examiner un petit peu où ils sont rendus dans l'ensemble des choses qu'on a vues. Alors, la semaine prochaine, on va continuer un autre chapitre qui va être celui des causes. Donc, la quatrième leçon, c'est celui des causes. Alors, à partir de mercredi prochain, on va entrer dans les causes. Alors, terminons là-dessus.